Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Du dernier rapport du GIEC paru cet été qui engage à une gestion durable des sols, aux incendies qui ravagent l'Amazonie, le monde est en émoi. Au chevet de cette terre sous pression, acteurs de terrain, scientifiques, chercheurs envisagent de nouvelles politiques d'exploitation des sols. Dans quelle mesure l'occupation des sols a-t-elle une influence sur le réchauffement climatique? Comment doit-on gérer autrement et durablement nos terres? Jusqu'où doit-on aller en matière de changement de nos modes de consommation? Vivons-nous une révolution des modes de pensée? Autant de questions que je poserai à nos trois invités aujourd'hui. Nathalie Denoblet-Ducoudray, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue et physicienne, directeur de recherche au CEA, on peut dire directrice aussi de recherche au CEA, au laboratoire sciences du climat et environnement et co-coordinatrice du laboratoire d'excellence basque. Basque, ça veut dire?
Biodiversité, agro-systèmes, société et climat.
Très clair. Marc Dufumier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome, docteur en géographie et professeur honoraire d'agriculture comparée à AgroParisTech, président de Commerce Équitable France. Et avec Olivier Lenaire, vous avez commis un livre qui s'intitule « L'agroécologie peut nous sauver », livre paru chez Actes Sud. Et à vos côtés, Nicolas Giraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paysan dans le Jura et porte-parole de la Confédération paysanne. Et en seconde partie d'émission, coup de fil à la rédaction des pages Planète du journal Le Monde. Et c'est Martine Vallot qui nous livrera son choix info de la semaine. Et enfin, vous découvrirez l'escale verte qui nous emmènera à Bordeaux où se prépare le festival Climax, la 5e édition sur le thème de l'Amazonie ou le déracinement du monde. Un festival qui se déroulera du 5 au 8 septembre prochain. Et nous serons en liaison avec Philippe Barr, fondateur de l'écosystème Darwin. Bienvenue à tous, ravie de vous retrouver avec l'équipe au complet en cette rentrée. Notre collaboratrice Anaï Morales, notre réalisatrice Alexandra Malka, nos complices de Radio France, Anne Gouzon, Valérie Ernould, Caroline Chausset et Vanessa Chang. Et avec à la technique aujourd'hui, Louis Bardinet.
Des colonnes de fumée sur des dizaines de kilomètres. La forêt amazonienne prend feu de toutes parts, sans qu'une intervention humaine soit capable d'y mettre fin. Rien que ces deux derniers jours, 2500 nouveaux foyers ont été enregistrés. Des incendies, tous d'origine humaine. Pour défricher de nouvelles parcelles, les agriculteurs y mettent le feu, mais ne parviennent pas toujours à maîtriser les flammes attisées par une sécheresse exceptionnelle. Aux premières loges de ce désastre écologique, les Indiens vivant encore dans la forêt.
Pour nous, c'est de la destruction. Ce qui se passe ici, c'est une atrocité. Personne n'aurait imaginé que ça puisse arriver.
Une politique de déforestation encouragée par le président Bolsonaro, climato-sceptique convaincu.
Chaque jour qui passe, la destruction de notre forêt avance. Avec le déboisement, les scieries, on est triste parce que c'est notre forêt qui se meurt.
Ces incendies géants débordent sur les pays frontaliers. 754 000 hectares de forêt sont partis en fumée depuis le mois de mai en Bolivie.
C'est un reportage diffusé sur France 3 le 24 août dernier. Nathalie Denoblet-Ducoudray, l'Amazonie en feu, au cœur des préoccupations. Vous avez forcément suivi cette actualité les uns les autres. Un véritable danger pour la planète?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est un véritable danger puisque on sait aujourd'hui que si on évite la déforestation, on évite la dégradation de nos zones humides et de nos tourbières, on évite 10 à 15% des émissions globales de gaz à effet de serre. Et puis, ne parlons pas de toute la perte de biodiversité qui en résulte.
Marc Dufumier.
Oui, absolument. Cette déforestation, c'est autant de carbone qui retourne en état de gaz carbonique, c'est autant de feuilles mortes qui ne tombent plus à terre, c'est moins d'humus dans les sols.
Et alors, bien sûr, on a compris que le président Bolsonaro privilégiait l'exploitation des ressources naturelles sur la préservation de la nature. Ça pose aussi, on l'a compris, la question de ces accords commerciaux, hein, le Mercosur, avec le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Il y a aussi le CETA, le TAFTA, on parle de tous ces accords-là. On produit là-bas des céréales ou du soja qui ensuite arrivent chez nous et servent à nourrir les animaux. Nicolas Giraud, une réaction peut-être, vous qui êtes justement éleveur.
Oui, moi je suis éleveur. J'allais dire, ça vient nourrir les animaux en France et en Europe, mais ça ne vient pas nourrir tous les animaux et tous les systèmes. Et c'est là où le modèle agricole et puis les politiques en France et en Europe ont une responsabilité sur ce qui se passe en Amazonie. Si on est capable de réorienter le modèle agricole vers redonner de l'autonomie aux paysans, travailler sur l'autonomie alimentaire, sortir de cette dépendance à l'agro-business, que ce soit ceux à qui on achète notre aliment ou ceux à qui on vend, on peut peut-être espérer faire autrement et pas avoir le même impact sur la planète ici et sur la planète de l'autre côté de l'Atlantique.
Marc Dufumier, concrètement, on a aussi parlé de risques pour les consommateurs avec ces produits qu'on importe parce que les normes ne sont pas les mêmes. L'utilisation possible de certains intrants chimiques est autorisée dans ces pays et pas forcément en France ou en Europe.
Oui, c'est vrai, surtout quand on parle de la viande. Hein, la viande aux hormones, c'est pas très bon. Les antibiotiques dans la viande, c'est pas très bon non plus. On développe des antibiorésistances. Et les importations de fruits, parfois en provenance de ces pays, c'est des résidus pesticides, des perturbateurs endocriniens. Et on annonce à la jeune génération quand même une espérance de vie en bonne santé de je ne sais combien d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs.
Donc vous, ça vous irrisse ?
Oui, absolument. Mais il est vrai qu'on peut promouvoir en France une agriculture plus autonome en protéines végétales, c'est-à-dire en substitution du soja ou du tourteau de soja. On peut cultiver des luzernes, du trèfle, du sainfoin, des lotiers pour nourrir les vaches. On peut nourrir les cochons avec de la févrole, du lupin, des pois fourragés. Et les humains peuvent manger des légumes secs. C'est bon pour la santé, c'est riche en fibres, c'est pas mauvais. Les lentilles, les petits pois, les haricots, les fèves, etc.
Les légumineuses et moins consommées de
les
viande.
Les légumineuses, exactement.
Nicolas Giraud, vous vouliez réagir ?
Ouais, je voulais juste qu'on doit aussi se poser la question par rapport à ces accords de libre-échange. Tout simplement, même déjà, bon, comme sur les modèles d'élevage ou les modèles d'agriculture, mais aussi, est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on a besoin d'importer de la viande ou du soja qui vient de la viande du Canada, du soja qui vient d'Amérique du Sud, ou est-ce qu'on est capable de produire ici ? Est-ce que la relocalisation de notre alimentation, plus de liens entre production et alimentation, nous, il nous semble que l'élevage français européen, il est capable de fournir la demande. Il suffit juste d'y mettre des moyens et des politiques adéquates. Plutôt que de vouloir continuer à aller sur, nous, on va exporter du lait, du blé, et on va importer du soja, de la viande bovine, etc.
Et ce qui permettrait certainement une moindre pression sur la terre. Nathalie Denoblet-Ducoudray, bien sûr, ça fait penser au dernier rapport du GIEC. Donc je rappelle que le GIEC a été créé en 1988 par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement et par l'Organisation Météorologique Mondiale. Et le GIEC a donc rendu un rapport le 8 août. Il y en aura un autre fin septembre, si je ne m'abuse, on suivra tout ça. Et donc plus de 100 scientifiques de 52 pays se sont prononcés sur les enjeux d'une gestion durable des sols. Alors concrètement, état des lieux, pluie plus intense, déjà par rapport au réchauffement climatique, pluie plus intense, période caniculaire plus longue, inondations accrues et on constate une augmentation de la superficie des terres dégradées, une diminution des forêts, une désertification accrue, c'est le constat de ce rapport.
Oui, tout à fait. Ce rapport donne plusieurs chiffres, en fait, sur le constat de la pression que nous exerçons sur nos terres. Et ce qui est intéressant, c'est que 3/4 de nos terres non englacées aujourd'hui sont occupées ou gérées par l'homme. Il ne reste que 1/4 de la planète qui n'est absolument pas touchée. Ce qui est peu, 1/4 de la planète aussi est considérée aujourd'hui comme dégradée. Donc ça, c'est la pression que l'homme exerce en prélevant d'énormes volumes d'eau, en fertilisant la terre. Mais on a aussi la pression climatique qui arrive, comme vous l'avez introduit tout à l'heure. Et aujourd'hui, sur les continents, on est déjà à 1,5 degré de réchauffement. On parle du 1,5 à l'échelle planétaire. Mais nos continents, nos plantes, nos animaux, nous subissons déjà 1,5 degré à l'échelle de nos continents. Et même si la planète est à 0,87 degré de réchauffement global.
Donc nous sommes déjà dans une phase d'adaptation à cet état des lieux.
Voilà. Exactement.
Et un état des lieux irréversible, mais on peut limiter peut-être un accroissement de ce réchauffement.
Je pense que l'irréversibilité aujourd'hui est très difficile à diagnostiquer. Beaucoup, donc 1/4 des terres sont dégradées. En termes de biodiversité, je pense qu'on a atteint des seuils d'irréversibilité. En termes de dégradation des terres, le rapport aujourd'hui ne se prononce pas de manière certaine puisque l'observation est peut-être en quantité aujourd'hui insuffisante, même si probablement sur certaines régions, peut-être que des acteurs locaux ont déjà perçu une véritable dégradation. À l'échelle du rapport, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se prononcer de manière ferme.
D'accord. Marc Dufumier.
Oui, moi ce que j'apprécie dans le rapport du GIEC, c'est que c'est pas seulement un constat de la situation, mais il y a des ouvertures sur promouvoir de nouveaux systèmes de production agricole qui puisse à la fois s'adapter à ce réchauffement climatique et notamment aux accidents climatiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, et qui puisse aussi contribuer à atténuer ce réchauffement climatique, moins d'émissions de gaz carbonique, c'est-à-dire moins de déforestation dans les pays du Sud, on disait du tiers-monde autrefois, peut-être moins de labour chez nous, moins de méthane, moins de protoxyde d'azote. Sachez que dans les pays industriels, et en France en particulier, la principale contribution de l'agriculture au réchauffement climatique, c'est le protoxyde d'azote. Quand on épand des engrais azotés de synthèse, par exemple, non seulement c'est coûteux en énergie fossile, la fabrication de l'urée, l'ammonitrate, mais c'est très émetteur de ce protoxyde d'azote, qui est bien plus réchauffant à l'unité de volume que le gaz carbonique. Et donc, il nous faut réduire ces émissions-là en question. Et c'est les mêmes systèmes de production, en fait, qui permettent de s'adapter et d'atténuer. C'est-à-dire des systèmes plus diversifiés, des systèmes plus résilients, c'est-à-dire des revenus aussi pour les paysans plus résilients, c'est-à-dire ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est ça qui nous permettrait, effectivement, de contribuer à l'atténuation de ce réchauffement. Il y a l'urgence.
Nathalie de Noblet du Coudray, l'usage des terres conduit forcément à produire aussi donc des gaz à effet de serre. Et là, encore des chiffres, hein, près du quart des émissions mondiales est imputable à la production alimentaire, qui elle-même occupe plus d'un tiers de la surface émergée du globe. Donc c'est quand même cette production alimentaire qui produit un quart des gaz à effet de serre.
Oui, sur l'ensemble de tous les composés de gaz à effet de serre. Mais on a aussi le côté bénéfique qui est que 29% des gaz à effet de serre, du CO2 émis, est aussi réabsorbé par nos écosystèmes. Donc on a ce pouvoir de la Terre
de corriger des
choses. Et ce pouvoir, il faut l'amplifier, et il faut, plus on dégrade nos terres et plus on limite cette capacité de la Terre à réabsorber une partie de nos émissions. Donc je pense que là on a effectivement un véritable défi à relever, mais il ne faut pas oublier que la Terre ne peut pas tout. D'accord, elle doit continuer à être productive. Donc elle doit continuer à nourrir le monde, et si les transports, l'industrie ne jouent pas leur rôle, la Terre ne pourra pas compenser l'intégralité de nos émissions. Donc je pense que là, on fait un focus sur la Terre, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça.
En tout cas, pour rester sur la Terre, il y a un point très intéressant, et on ne le sait pas forcément. Vous dites, Nathalie de Noblet du Coudray, que la sécheresse du Sahel pourrait être liée au défrichage des sols. Là, c'est marquant. On a tous en tête l'image du Sahel. Et vous vous dites, possiblement, c'est cette façon dont on a utilisé et travaillé la Terre qui pourrait expliquer cet état des lieux.
On a effectivement une rétroaction. Donc, on a parlé tout à l'heure de la contribution au gaz à effet de serre, et donc la partie atténuation du changement climatique. Mais les surfaces continentales et la végétation jouent aussi un rôle à l'échelle locale sur le confort, j'appellerais le confort hydrothermique dans lequel nous vivons, plus aussi un confort de pollution. On a parlé tout à l'heure du N2O. Et donc, effectivement, les études aujourd'hui montrent qu'une partie, non pas de la sécheresse du Sahel, mais de la persistance de la sécheresse au Sahel aurait pu être due à un surpâturage de ces régions-là, même si l'origine de la sécheresse est plutôt une origine océanique. C'est la persistance de la sécheresse qui pourrait être en partie imputable aux activités humaines.
Alors avant de partir sur justement ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faudrait faire en matière de politique pour parvenir à une gestion durable des sols et lutter donc contre le réchauffement climatique, je vous propose d'écouter ce deuxième reportage diffusé sur France 3 le 8 août dernier. Deux agriculteurs, deux méthodes de labour.
Deux agriculteurs, deux méthodes, deux philosophies. L'un a renoncé à labourer ses champs, l'autre non. Ludovic Joaris cultive près de 300 hectares dans l'Essonne. Ce jour-là, il sème du colza sur cette terre qu'il n'a plus labourée depuis les années 90. Le but, entretenir la protection naturelle des sols.
Cette couche superficielle de matière organique, c'est ça qui le protège également, qui évite l'érosion.
Si cette technique est aujourd'hui recommandée par certains scientifiques, c'est parce qu'elle permettrait de conserver le carbone dans les sols.
Et le carbone, c'est un des principaux gaz à effet de serre. Pour donner un ordre d'idée, en 17 ans, j'ai capté une tonne de carbone par hectare par an.
Plus de labour, c'est aussi 3 à 4 fois moins de carburant dépensé et moins de temps passé sur son tracteur. Alors, est-ce une méthode idéale? Pas du point de vue de Godefroy Potin, exploitant dans le Val d'Oise. Selon lui, impossible par exemple de planter des betteraves sans labourer la terre.
Une betterave, vous voyez, là on voit vraiment le haut de la racine. Donc j'ai besoin d'une terre meuble sur une vingtaine de centimètres. Le non-labour, c'est pas du tout une solution miracle, parce qu'on a des problèmes de mauvaises herbes qui sont solutionnables par le labour et qui vont éviter l'utilisation de produits chimiques.
Idéalement, il faudrait faire mieux, mais on sait pas le faire sans. Les désherbants, c'est vraiment le plus compliqué. Alors après, qu'est-ce qui est mieux? C'est des choix, quoi.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Marc Dufumier, qu'est-ce qui est mieux?
Ça dépend quand même des conditions locales. Il va de soi que pour mettre des pommes de terre ou de la betterave, il faut quand même que le sol soit un peu ameubli. Pour semer des graines au semoir, on peut très bien effectivement semer directement sans labour, ça c'est très clair. Et la lutte contre les herbes adventices, effectivement, souvent les gens qui pratiquent le zéro labour mettent le glyphosate, vous savez, qui fait débat aujourd'hui, ce fameux désherbant. Mais il y a quand même des solutions alternatives qui consiste précisément, alors non pas à éradiquer, de toute façon l'agriculture moderne de demain n'éradiquera plus ni les herbes adventices, hein, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, ni les ravageurs, mais elle va vivre avec. L'idée c'est d'en minorer la prolifération, et pour les herbes adventices, l'idée c'est d'avoir dans les rotations, diversifiées, des cultures qui recouvrent le sol très vite, font de l'ombrage, et même les herbes qui ont réussi à germer ne parviendront pas à l'état adulte et à l'égrenage, et cesseront de proliférer. Donc je ne dis pas qu'on se débarrassera totalement de ces herbes adventices qu'on appelle parfois les mauvaises herbes, mais on parviendra à minorer leur prolifération. Seulement, dans les plantes de couverture, vous avez parfois des prairies temporaires. Donc, vous savez, des prairies dans lesquelles vous mettez une graminée, une légumineuse, de la luzerne par exemple et autres, qui va être fauchée. Les herbes adventices vont être fauchées, donc elles ne proliféreront pas. Mais après ça, je vais vous dire, il faudrait quand même qu'il y ait un débouché pour cette prairie temporaire. Et vous voyez que dans des régions où il n'y a pas d'élevage, eh bien, ça pose problème. Donc on n'échappera pas, je vous le dis tout de suite, dans des régions comme la France, à réconcilier agriculture, élevage, remettre les animaux sur la paille. Vous savez que quand l'urine va sur la paille, ça fait du fumier et ça fait du très bien au sol. Ça se permet de séquestrer du carbone dans les sols précisément. Et le lisier n'ira pas rejoindre le littoral breton. Et effectivement, ça permet de lutter contre les herbes par des voies biologiques, absolument.
Nicolas Giraud, une réaction, parce que vous sur le terrain, et, enfin vous et puis tous ceux qui sont... à la Confédération Paysanne, hein, vous êtes le porte-parole de ce syndicat. Qu'est-ce que vous ressentez? Parce qu'on a quand même le sentiment que, voilà, aujourd'hui, l'état des lieux est fait, il y a des solutions possibles, comment sont-elles expérimentées? Et puis, on a quand même l'impression qu'un paysan ou des paysans, on parle de paysans résistants presque, pour désigner ceux qui changent de modèle. Est-ce que c'est encore un combat?
Je pense que c'est encore un combat, de toute façon, d'arriver à faire passer le message qu'on peut faire autrement. Que comme on nous a enseigné depuis des années, comme la direction a été donnée depuis des années, de dire voilà, il va falloir produire plus et à moins cher. Parce que là, on entendait dans le reportage parler des désherbants, donc des pesticides. C'est un enjeu de santé publique, mais c'est aussi un outil de compétitivité pour les paysannes et les paysans. C'est-à-dire, ça a été un des outils de l'agriculture industrielle, comme les intrants, comme le soja importé, pour produire plus à moins cher, plus vite. Et être soi-disant compétitif sur des marchés mondiaux, des marchés à l'export. Pour nous, faut sortir de ça. Donc j'ai bien aimé l'exemple de Marc Dufumier avec le lien qu'il y a entre les cultures et l'élevage. Et comment est-ce qu'on arrive à réconcilier culture, élevage, citoyen? On a écrit un bouquin à la Confédération Paysanne avec tout un paquet de paysannes et de paysans qui ont expliqué leur lien avec leurs animaux et leur territoire et en quoi... Le système de polyculture-élevage, c'est-à-dire qu'on a sur une même ferme ou sur un même territoire des animaux, des cultures, les uns alimentent les autres. Comment ce système-là est le système le plus vertueux, vertueux pour les paysannes, les paysans, vertueux pour l'environnement, pour l'alimentation? Et comment est-ce qu'on arrive à avancer dans cette direction-là? Le vœu de mettre la polyculture-élevage en avant, ça a été un des points d'un atelier des États généraux qui était présidé par Dominique Potier. On avait mis la polyculture-élevage devrait être le système, on va dire, majeur dans la direction où on devrait aller. Bon, c'est quelque chose qui n'a pas été repris dans les suites politiques des États généraux de l'alimentation. C'est pas la seule, malheureusement.
Parce que l'usage des terres touche aussi et surtout à de gros intérêts financiers. Il y a des puissances économiques en jeu, hein, Marc Dufumier. Les filières agroalimentaires, énergétiques, c'est compliqué, hein, on imagine, de faire avancer ces modèles autres.
Oui, c'est-à-dire vous avez les compagnies semencières qui ont breveté des semences et veulent absolument les vendre. Et c'est des semences de variété qui exigent des engrais de synthèse qui sont très sensibles aux prédateurs et autres. Et donc, ça permet de vendre des pesticides. Vous avez aussi un peu l'agro-industrie qui veut, pour amortir produire ces équipements. Vous savez, beaucoup de processus industriels aujourd'hui sont robotisés. Et donc, il faut que le produit agricole soit le plus standard possible. Il parle de matière première agricole. C'est injurieux pour un paysan, qui pour lui, c'est un produit fini, son produit agricole. Mais là, il parle de matière première agricole la plus standard possible pour faciliter le processus industriel. Mais donc, les agriculteurs, les paysans sont souvent coincés entre un amont où la génétique aujourd'hui est limitée, un cahier des charges standard de l'agro-industrie. Oui, tous ces gens-là n'apprécient pas forcément le discours qui relève de l'agroécologie et peut-être conviendrait-il qu'ils lisent le rapport du GIEC.
Alors, dans ce rapport du GIEC, Nathalie Denoblet-Ducoudray, on se rend compte aussi que donc les sols sont devenus plus fragiles qu'avant. Destruction de l'humus, d'où moins de rétention des sels minéraux et de l'eau, érosion, pollution des sols. Et donc, chaque degré de réchauffement risque de réduire les rendements, apparemment. Donc de 6% pour le blé, 3% pour le riz et le soja, 7% pour le maïs. Et donc ce sont des cultures majoritaires dans l'alimentation humaine, en apport en calories. Mais aujourd'hui, le constat, c'est quand même que cette agriculture modernisée, ultra-mécanisée, va de moins en moins pouvoir optimiser ses rendements.
Oui, alors ce que dit effectivement ce rapport, c'est qu'il y a une, notamment dans les pays du Sud, où on a déjà une sensibilité au réchauffement. Mais plus que le réchauffement, je pense que à nos latitudes, dans nos pays tempérés, ce sont les événements extrêmes. Et c'est l'accentuation de la fréquence, de l'intensité, de la durée d'un certain nombre d'événements extrêmes. On a parlé des vagues de chaleur, pour lesquelles on est vraiment certain, des phénomènes de sécheresse et des précipitations intenses, qui sont les trois événements majeurs, qui entraînent effectivement des pertes et surtout une instabilité en fait des rendements. Je pense qu'on est vraiment aujourd'hui, et c'est pour ça que l'agroécologie est certainement l'un des moyens de lutter contre cette instabilité des rendements, c'est qu'une monoculture va être beaucoup plus sensible à ça. Ensuite, vous parliez des sols, alors on parlait du labour. Effectivement, ce rapport fait état du fait qu'aujourd'hui, quand on abîme nos sols par l'érosion, ils s'abîment plus vite qu'il est capable de se restaurer. 10 à 20 fois plus vite qu'on est capable de le restaurer, et 100 fois dans des zones labourées. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas oublier cet effet-là.
Marc Dufumier.
Je rejoins l'idée selon laquelle l'accroissement des rendements est très fonction de la répartition, c'est de plus en plus chaotique de l'eau, que ce soit dans l'espace ou que ce soit dans le temps, d'une année à l'autre. Et sachez quand même qu'il y a des solutions pour que des arbres avec des racines profondes récupèrent l'eau de la nappe phréatique, continuent ce qu'on appelle la photosynthèse, fabriquent des feuilles et des fruits, même en saison sèche dans les pays tropicaux. Il y a donc bien une séquestration de carbone, la feuille va tomber à terre, ça va fournir de l'humus qui lui-même va retenir de l'eau, qui pour une région semi-aride, en saison des pluies, l'humus qui retient l'eau, ça permet d'accroître les rendements. On n'est pas complètement sans solution. Mais il y a vraiment urgence aujourd'hui de mettre en œuvre ces techniques savantes qui associent des résultats des recherches empiriques paysannes depuis des siècles et la recherche scientifique aujourd'hui, l'agroécologie en termes scientifiques, la discipline des agroécologues. On peut s'associer effectivement aujourd'hui pour essayer de contrecarrer quand même ce dérèglement climatique.
Mais alors est-ce que ces solutions, ces méthodes sont aujourd'hui enseignées dans les écoles agricoles ?
Alors, ça commence quand même, y compris dans les lycées agricoles, quelques petits progrès, c'est à mettre un peu à l'actif de M. Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture, il y a quelques années. Et j'observe que des enseignants ou des fils de paysans qui disaient « Non mais attendez, l'agriculture biologique, c'est bien l'âge de pierre, c'est la bougie. » Les gens me disent « Ah mais non, vous vous rendez pas compte, c'est beaucoup trop sophistiqué, beaucoup trop savant. » L'idée que ça passe de très arriéré à très savant, ça me fait plaisir.
Nicolas Giraud, on imagine aussi qu'il faudrait regarder du côté de la PAC, non, pour aider probablement cette agriculture autre, en tout cas plus respectueuse des sols.
C'est sûr que nous, enfin, on le dit depuis longtemps, notre modèle nous basait sur l'agriculture paysanne ou l'agroécologie paysanne, on peut l'appeler comme ça. Si on veut aller dans cette direction-là, il va falloir avoir des moyens économiques pour changer, pour sortir de la dépendance aux pesticides, pour accepter d'avoir des rendements moins importants. Voilà, c'est toute une logique différente. Passer plus de temps dans ces parcelles, enfin, il peut y avoir plein de choses à remettre en place autrement. Et ça se fera pas sans levier économique. Et pour l'instant, le revenu des paysans, on sort d'une loi sur les états généraux, il n'y a eu aucun résultat. Donc pour nous, un des leviers importants, c'est le levier de la PAC. C'est à peu près 9 milliards d'euros qui tombent tous les ans chez les paysannes et les paysans français. Sauf qu'ils sont donnés d'une certaine manière qui donne une direction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la PAC, elle est donnée massivement sur les hectares. Et plus on a d'hectares, plus on touche de subventions. Donc, pour un paysan qui n'arrive pas à avoir de revenus avec sa production, le meilleur moyen d'assurer un revenu, c'est d'assurer une PAC importante. donc d'avoir des hectares supplémentaires. Et à partir du moment où on a des surfaces supplémentaires, c'est beaucoup plus difficile de faire sa transition en agriculture biologique, de prendre son temps, de revoir ses schémas de production, de travaux, etc. Enfin, moi, je suis paysan parce que j'ai envie de travailler dehors avec des animaux, avec des végétaux et de travailler avec un terrain qui est vivant. J'ai pas envie de travailler avec des robots. C'est pas pour ça que je me suis installé paysan ou derrière un ordinateur. Donc, il nous semble que si on reconnecte le monde paysan avec une agroécologie, avec de la technique, avec de la technique sur les animaux, sur les plantes, sur le sol, c'est super valorisant de se dire il y a plein de choses à explorer, il y a plein de choses à réapprendre, à réenseigner et à trouver, parce que on est dans un défi pour le monde paysan, pour son revenu, pour continuer, dans un défi pour l'humanité, pour continuer à nourrir tout le monde, et pour le climat, pour arriver à avoir une planète qui soit habitable et vivable pour tout le monde, quoi.
Ce rapport du GIEC, quand il est sorti, Nathalie Denoblet et Ducoudray, beaucoup ont réagi sur l'alimentation et l'alimentation carnée. C'est-à-dire que on a eu le sentiment qu'il ne fallait plus manger de viande. C'est pas vraiment ce que dit le rapport, mais le fait d'être plus modéré et puis de se rendre compte que cette alimentation carnée joue un rôle aussi sur l'état des sols, c'est quand même une responsabilité de tous.
Oui, tout à fait. On a été beaucoup interpellés sur la partie alimentation. Mais ce que dit d'abord ce rapport, et je pense que c'est une chose positive et sur laquelle il faut que chacun de nous réfléchissions, c'est qu'un quart de la production mondiale aujourd'hui est perdue ou gaspillée. Perdue dans les pays tropicaux qui ont des difficultés entre la production et la consommation et qui ont beaucoup de pertes là, et ils manquent de savoir-faire qu'on pourrait nous leur apporter, et gaspillés dans nos pays développés. Donc, il nous appartient...
Près d'un quart, je crois, des produits...
Un quart de la production totale est gaspillée. Ou perdu,
à l'échelle mondiale,
gaspillé dans nos pays développés et perdu dans les pays en voie de développement. Donc déjà, on a là évidemment un terrain de travail qui permettrait de résoudre une partie du changement climatique, puisque ce sont des émissions de gaz à effet de serre, de résoudre des problèmes de sous-nutrition dans certains pays, et en plus de préserver un quart de nos terres pour reforester ou aller vers d'autres types de pratiques. Donc ça, c'est déjà un point important. Ensuite, il est clair que selon notre mode d'alimentation, notre pression et notre empreinte carbone et eau est différente. Donc évidemment, quand on utilise une alimentation très carnée, la pression et l'empreinte carbone et la pression sur l'eau est plus importante que sur une alimentation plus sous forme de fruits, de graines, de céréales, etc. Mais ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que l'élevage joue un rôle et l'animal a aussi son rôle sur la biodiversité, sur le stockage du carbone, sur le recyclage des nutriments. Et c'est un peu un luxe de pays développés de dire il faut devenir végétarien, on oublie les 820 millions de personnes qui continuent de souffrir de la faim dans le monde et pour qui cet apport protéiné serait fondamental.
Donc, là où inversement,
je pense qu'il y a juste un...
Oui, là où inversement, il y a 2 milliards d'humains en surpoids.
Voilà, donc ce qui est plutôt favorable, c'est de voir qu'il y a plus de personnes en surpoids et donc que de personnes en malnutrition, mais on a quand même plus de 800 millions de personnes en malnutrition et ça c'est quelque chose qui est inacceptable aujourd'hui.
C'est toute cette question primordiale nord-sud qu'il faut effectivement intégrer dans ces questions de gestion des sols. Nicolas Giraud, une réaction j'imagine par rapport à cette consommation carnée.
Nous, il nous semble vraiment qu'il y a de fait un équilibre à trouver entre les différents types d'élevage. On l'a dit déjà tout à l'heure, ils n'ont pas tous le même impact, un élevage paysan ou un élevage industriel. Et de la même manière que pour nous, il ne nous semble pas que ce soit la solution de se dire on va arrêter l'élevage ou on va le diminuer très très fortement pour le remplacer par une agriculture d'autres productions, mais qui sera tout autant industrielle et tout autant dévastatrice pour l'environnement, les hommes qui travaillent et le climat. Donc
c'est plutôt consommons moins mais mieux.
Mais exactement. Au niveau de l'élevage, on se rend bien compte qu'il faut aller vers consommer moins et mieux. Mais le levier principal pour nous, il est quel type de production. Pour nous, ce serait pas alimentation carnée contre non carnée, ce serait agriculture industrielle contre agroécologie paysanne. Le défi pour nous, il est plutôt là.
Je pense que Marc Dufumier, vous êtes d'accord, hein ?
Oui, parfaitement d'accord. Et je m'interdis de dire à un éleveur de Mongolie de devenir végétarien. Je crois qu'il mourrait sur place.
Alors, c'est le temps du choix musical pour faire la transition. Mais là, cette fois-ci, c'est Nicolas Giraud. C'est Yannick Noah, c'est ça ? Vous avez fait ce choix-là, avec comme chanson ?
Aux arbres citoyens. Je suis dit dans le tempo où on est, sur le climat et sur ce qui se passe en Amazonie, c'était plutôt approprié.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. Remplir la balance, quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules, de squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer les choses, quelques baffes à prendre, la veille est pour demain, des baffes à rendre, faire tenir debout une armée de roseaux, plus personne à genoux fait passer le mot. C'est vrai, la terre est ronde, mais qui viendra nous dire qu'elle est pour tout le monde et les autres à venir, puisqu'il faut changer les choses.
Poursuivons notre discussion sur la terre sous pression, ces sols dont nous dépendons et que nos méthodes d'exploitation mettent à mal selon le dernier rapport du GIEC et dans cette actualité aussi des feux qui ravagent l'Amazonie. Pour en parler, nous sommes avec Nathalie Denoblet-Ducoudray, climatologue et physicienne, directrice de recherche au CEA, au laboratoire Sciences du Climat et Environnement, et elle est également co-coordinatrice du laboratoire d'excellence basque. Marc Dufumier, ingénieur agronome, docteur en géographie, professeur honoraire d'agriculture comparée à AgroParisTech, puis président, il faut le signaler, de Commerce Équitable France, et auteur avec Olivier Lenaire du livre formidable, hein, et vraiment à mettre entre toutes les mains, L'agroécologie peut nous sauver, un livre paru chez Actes Sud, et Nicolas Giraud, bien sûr avec nous, paysan du Jura et porte-parole de la Confédération Paysanne. Concrètement, dans ces quelques minutes qu'il nous reste, on peut effectivement quand même préciser qu'il y a des solutions qui sont d'ailleurs identifiées, exposées dans le rapport du GIEC, mais ces solutions ne sont pas forcément transposables d'un territoire à un autre. Il faut les imaginer comme des solutions locales et bien penser à la territorialisation, c'est ça, de la solution.
Oui, tout à fait. Je pense que l'un des messages très positifs de ce rapport est que les solutions existent, les défis, on est dans un possible et qu'il suffit de les déployer. Le deuxième côté positif, c'est que les solutions ont des synergies entre elles, c'est-à-dire que il n'y a pas d'antagonisme entre les solutions, donc une solution bénéficie à un ensemble d'autres effets. Mais effectivement, ce faisceau de solutions qui existe dépend, son efficacité va dépendre du lieu et des conditions pédoclimatiques, sociétales, de l'histoire d'une région. Donc il y a un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte et il ne faut pas se dire qu'une solution est valable en tout point du globe. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense ensuite que pour s'approprier ce qui se passe et l'évolution du climat et comprendre ce qui se passe, il faut que nous, climatologues, travaillons à la territorialisation du changement climatique, c'est-à-dire être capable d'expliquer à chacun ce qui s'est passé en son lieu et ce qui va se passer en son lieu, de manière à ce qu'il comprenne l'évolution à laquelle il va être soumis.
Marc Dufumier, une réaction ?
Oui, absolument. L'agroécologie, c'est, en tant que discipline scientifique, c'est celle qui justement montre que tous les écosystèmes agricoles ne sont pas situés au même endroit, ne sont pas dans des conditions naturelles identiques. Il faut impérativement que les systèmes de production s'adaptent à ces conditions locales. Il faut renoncer un petit peu à ce qu'a été l'agronomie, vous savez, nomos, la norme, la règle, la variété améliorée, je sais ce qui est le meilleur, la mauvaise herbe, je sais ce qui est mauvais. Alors ça nous a fait le plus grand tort. Et donc, il faut reprendre un peu les savoir-faire savoir-faire paysan d'autrefois. Il y a des choses hyper modernes aujourd'hui. Nos grands-mères ne connaissaient pas les champignons mycorhiziens, vous savez, qui s'incrusent dans la racine de la plante, développent un filament qui va aller chercher les aimants minéraux coincés dans les argiles et refile ça, synergie, à la plante cultivée. Tout ça, effectivement, nos grands-parents ne savaient pas tout ça. Mais si on veut sauver des champignons mycorhiziens qui peuvent jouer un rôle très utile pour la fertilisation des plantes par la voie biologique, ben faudra peut-être qu'on s'interdise les fongicides quand un champignon pathogène apparaît sur une plante. Donc ça va devenir très savant. Mais il faut vraiment connaître les conditions du lieu, les herbes du coin, les champignons pathogènes, les abeilles, les coccinelles. On va jouer avec tout ça.
Et puis finalement, pouvoir repérer sur le terrain quand une maladie pointe son nez et puis réagir pour l'endiguer. Et on a aussi des solutions, Marc Dufumier, pour le faire sans intrants chimiques ou sans abus d'autres produits spécifiques.
Oui, on peut lutter contre des herbes adventices en lui faisant de l'ombrage. On peut lutter contre un puceron en invitant des coccinelles. On peut lutter contre des limaces en mettant des carabes. Enfin, je veux dire, le maintien d'une biodiversité...
C'est un écosystème.
C'est un écosystème agricole, aménagé, certes, mais intelligent.
Nicolas Giraud.
Je suis d'accord avec ça. J'ai juste un point en entendant et en me faisant la réflexion que faut qu'on fasse attention aussi à pas tomber dans des choix individuels ou des choix de territoire et de se dire que on va arriver à faire nos petits changements dans nos petits territoires, moins en production à compter parce que on a des leviers économiques, on est bien payé par notre prix du lait et ça nous permet de faire ces changements-là. Et se satisfaire de ça et de se dire que ben dans nos territoires, par nos choix individuels, on arrive à répondre à l'enjeu de l'agroécologie et l'enjeu du climat. Si on veut que ça se démultiplie, ce sera des choix politiques, ce sera pour nous sortir du libre-échange, sortir de cette concurrence effrénée des paysans du monde, et c'est changer le modèle économique à un moment donné. Donc c'est sûr qu'il faut faire prendre conscience aux uns aux autres qu'il y a des techniques, qu'il va falloir les changer, les faire évoluer, mais... Pour nous, la plus grande prise de conscience et la plus urgente, et celle qui aura le plus grand bras de levier, ce sera la prise de conscience politique.
Et puis sinon, endiguer aussi l'artificialisation des sols, hein, planter des arbres, réconcilier les villes et les campagnes, Marc Dufumier.
Oui, ben c'est absurde de vouloir étendre les villes sur les meilleures terres agricoles, hein, de bitumer, de mettre du béton, etc. Il y a urgence aujourd'hui de réduire l'extension urbaine, de repenser les villes, c'est pas vraiment mon domaine de compétence. Une densification de la population tout en végétalisant une grande partie de ces espaces, c'est moins mon domaine de compétence, mais là vraiment, il y a urgence.
Alors je me tourne vers Nathalie Denoblet-Ducoudray, c'est peut-être votre domaine aussi à vous de compétence, puisque je sais que vous avez enseigné à l'école du paysage de Versailles, vous enseignez peut-être toujours d'ailleurs, pour aider à changer les paysages. Il faut lutter contre ces îlots de chaleur aussi, et puis aider les villes à prendre leur part dans la lutte contre le réchauffement climatique.
Alors oui, mes interventions à l'école du paysage datent de cette année, donc c'est tout nouveau, c'est un choix d'un climatologue qui a travaillé à l'échelle mondiale sur les 100 000 dernières années, de s'intéresser à aujourd'hui et demain sur mon territoire, et je pense que les paysagistes sont très bien formés pour ça. Ce que l'on sait effectivement, c'est qu'on va avoir plus de 70% de la population dans quelques années qui va vivre en ville. Or, quand on a un extrême de chaleur, c'est là que l'extrême se manifeste le plus violemment. Quand on a un orage qui passe et qu'il y a une présence de ville, ça se transforme en pluie torrentielle, soit sur la ville, soit en aval. Donc on sait effectivement que la ville joue un rôle très important sur l'énergétique de la convection, sur les précipitations, la température, et donc on a un véritable travail à faire là-dessus. Mais aujourd'hui, je pense que le citadin aussi souhaite reverdir sa ville, et je pense que le lien campagne-ville est effectivement à réfléchir, puisqu'on pense à la végétalisation de la ville pour rafraîchir la ville, notamment en période chaude, et on pense un peu moins à reforester nos paysages, de manière à aussi, lorsqu'on traverse nos paysages, ressentir cet îlot de fraîcheur apporté par la végétation, ce qui se combinerait astucieusement avec l'agriculture en termes paysagers, mais jouerait un rôle sur le recyclage de l'eau, sur favoriser la circulation de la biodiversité. Et donc, je pense qu'on est sur un besoin d'avoir des connectivités, qu'elles soient écologiques, hydrologiques, thermiques, entre nos villes et nos campagnes.
Merci à tous les trois. Livres et liens sur notre site. Je rappelle le titre de votre livre, Marc Dufumier, écrit avec Olivier Lenaire, L'agroécologie peut nous sauver, donc paru chez Actes Sud. Tous les liens qui vous concernent les uns les autres vers le labo d'excellence, par exemple, de Nathalie de Noblet de Coudray, parce que vous pourrez effectivement nous conseiller pour en savoir un peu plus et sur le rapport du GIEC. Tout sera à disposition, bien sûr, sur notre site et sur le site du monde.fr. Et vous restez avec nous. C'est la suite de l'émission. Et dans cette suite d'émissions, une nouveauté. En cette quatrième saison de notre magazine de cause à effet, chaque semaine, nous prendrons la direction de la rédaction des pages planètes du journal Le Monde, notre partenaire historique. Dans l'actualité riche qui touche à l'environnement, coup de projecteur sur une info choisie par l'un des journalistes du quotidien. Aujourd'hui, Martine Vallot est avec nous. Bonjour Martine Vallot.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Votre choix s'est porté en priorité sur tout ce qui concerne la mer. On a bien senti que là, vous aviez envie de nous interpeller. Et notamment, je crois, la goélette Tara et sa mission scientifique qui a débuté, alors faut le rappeler, le 27 mai dernier, hein, depuis l'Orient. Une mission en quête de microplastiques, c'est ça? Et vous avez embarqué alors?
Oui, oui, j'ai passé 2 jours avec eux au large de Port-Saint-Louis et dans le Rhône aussi. Et donc leur propos, c'est vraiment de pister les, non pas les bouteilles ou les bouts de sac, mais vraiment en plastique, mais vraiment les particules de microplastiques. Donc on ne sait pas grand-chose à leur sujet. On en trouve énormément dans les fleuves. Tara a d'ailleurs entrepris de faire une sorte de tour d'Europe et de visiter 10 grands fleuves. Donc on en trouve beaucoup dans les fleuves, moins en mer, on ne sait pas très bien ce qui se passe, on a envie de savoir comment toutes ces particules se dispersent, on sait simplement qu'il y en a à peu près partout, et on a envie de savoir quels micro-organismes les colonisent, quelles bactéries s'y attaquent, il y a à peu près tout à apprendre sur les microplastiques dans le milieu aquatique.
Donc sur la nature du plastique, hein, biodégradable, biosourcé, et puis ces scientifiques embarqués, ils travaillent comment ?
Alors, ils ont un travail un petit peu répétitif de prélèvement, puisqu'il va s'agir de beaucoup de, enfin, à la fois de comparaison et aussi d'échantillonner des prélèvements en eau et en conserver les particules de microplastiques qui se trouvent dedans. Il va y avoir, c'est un peu la marque de fabrique de Tara, beaucoup de travail de génétique. Donc les premiers résultats sur ces 10 fleuves sont attendus pour novembre, mais les vrais résultats scientifiques, ce seront plutôt dans 2 ans qu'il faudra les attendre.
Et alors il faut préciser quand même que Martine Vallot, ce plastique, on le retrouve partout, vous disiez, mais partout, ça veut vraiment dire partout sur la planète, en haut des sommets des montagnes, au pôle Nord ou dans les extrêmes, en tout cas, il est partout parce que il diffuse, il est véhiculé et effectivement, il réintègre aussi notre alimentation.
Bien sûr, on peut dire qu'il en pleut, il en neige, hein, du microplastique, il y en a absolument partout. La semaine dernière, l'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs lancé un appel pour que les scientifiques travaillent davantage sur les microplastiques. Et ce qui a suscité cette réaction, c'est le fait qu'on en trouve aussi dans les eaux de boissons, toutes les eaux de boissons. À peu près. Donc on sait qu'il y en a dans le cycle de l'eau, dans les nappes souterraines et en mer et dans l'air aussi, puisqu'effectivement, vous l'avez dit, on en trouve dans des endroits a priori préservés au sommet des Pyrénées et autres. Eh bien, il y en a partout, donc il est certain qu'on en boit et qu'on en inhale et on ne sait pas grand-chose sur l'effet sur la santé.
Donc les scientifiques de Tara sont à l'œuvre, ils rendront leur copie en fin d'année, c'est ça?
Alors dans un premier temps, oui, je pense que ce sera plutôt un travail une présentation un peu de comparative fin novembre. Bon, je crois qu'il y a une certaine pression pour qu'ils travaillent vite, mais bon, après les résultats de toutes ces analyses génétiques, ce sera plutôt dans 2 ans.
Autre coup de projecteur dont vous aviez envie de nous parler, hein, l'océan, oui. Toujours au cœur de vos sujets à découvrir cette semaine, donc sur le site lemonde.fr, un traité sur la haute mer?
Oui, alors il se trouve que ces jours-ci, jusqu'à vendredi, se tient à New York une conférence intergouvernementale. C'est la 3e session. L'idée, c'est de parvenir entre États à imaginer un instrument international, un instrument juridique contraignant pour les États sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Là, je vous ai dit le titre exact. L'idée, c'est vraiment de fournir à la haute mer, à la biodiversité en haute mer, quelques éléments de protection, parce que pour l'instant, elle en manque cruellement. Donc la haute mer, c'est tout ce qui se trouve en dehors des zones côtières gérées directement par les États. Donc c'est quand même une très très grosse part de notre planète qui pour l'instant n'a pas droit à beaucoup de protection.
Et puis on peut l'annoncer en avant-première, mais sans en dire plus, Martine Vallaud avec vous. Donc demain paraît le premier volet de la grande enquête de votre rédaction des pages Planète sur l'alimentation, oui. 6 épisodes.
Oui, alors on va parler pour commencer de volailles, de poulets. Il faut savoir que c'est la viande la plus consommée autour de la planète. Donc le reportage part des Pays-Bas, où je voulais juste vous donner un chiffre. On compte à peu près 42 millions de volailles pour 17 millions d'habitants. Donc voilà, la high-tech au pays du poulet. Bon, c'est très éclairant sur ce que nous mangeons.
La tomate bio en Espagne, le mil au Sénégal.
La tomate bio en Espagne, et qu'est-ce que ça veut dire le bio intensif? Ça pose beaucoup de questions. Le mil, qui est une céréale qui subit de plein fouet le réchauffement climatique en Afrique. Moi-même, je suis allée voir comment élever des saumons au pays du saumon, en Norvège. Au Canada, on s'intéresse aux légumineuses miraculeuses, puisque peut-être qu'un jour, on mangera moins de viande et nous serons contents de les trouver.
Ça va intéresser Marc Dufumier, ça, je le sens.
Oui. Et puis nous finissons par les algues, qui est quand même une très très grosse production en Asie, totalement ignorée par ici.
Eh bien, on attend avec impatience tout cela, Martine Vallaud. Merci beaucoup. On vous laisse rejoindre la rédaction. Toutes ces infos, bien sûr, seront développées dans le détail et à retrouver sur le site de l'émission et sur le site lemonde.fr. Merci à vous.
Merci.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Seconde partie d'émission avec une autre nouveauté, l'escale verte. Chaque semaine, nous partirons du côté d'une ville, d'un village, d'un lieu, en France, en Europe ou ailleurs dans le monde, pour y découvrir des territoires, des coins de paradis ou des secteurs en danger, des actions positives ou négatives, des événements aussi, et le tout avec des chercheurs et des acteurs de la transition en cours. Aujourd'hui, direction Bordeaux, où se prépare un festival attendu, Climax, dont la 5e saison s'intitule l'Amazon ou le déracinement du monde. Bonjour Philippe Barre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur de l'écosystème Darwin et donc organisateur, on peut dire ça, de ce festival engagé, donc qui va se dérouler du 5 au 8 septembre, mais qui a déjà commencé des rencontres, si j'ai bien compris.
Oui, nous avons la chance d'avoir eu la visite, enfin plus que la visite, parce qu'il reste 3 semaines avec nous. Le grand chef Cassie Crowny et sa délégation du peuple du Xingu nous a rejoints depuis la semaine dernière. Et nous avons déjà avec eux entrepris pas mal de discussions, de réflexions, avec également les ONG qui sont partenaires de notre événement. Nous souhaitons mettre à profit les différentes personnes qui viennent maintenant depuis plusieurs années invitées à notre festival. Nous avons souhaité mettre à profit leur présence pour avoir des groupes de réflexion et pour faire avancer l'idée que l'on ne doit plus être seulement conscient, mais surtout nous devons être unis, rassemblés pour agir à accélérer un petit peu, je dirais, un archipel de conscience un peu planétaire qui doit œuvrer ensemble pour que, face à la montée des populismes réactionnaires, des nationalismes les plus durs, eh bien, on puisse faire masse pour mettre en place un contre-courant de pensée qui soit plus fraternel, plus universel.
Donc c'était déjà le principe, l'ADN hein, du festival il y a 5 ans, quand il a été mis en place? Ou ça a évolué?
L'ADN du festival a toujours eu cette envie de faire partager notre esprit de fraternité, partager l'idée qu'il y a urgence à se rassembler pour agir, pour un meilleur respect de nos écosystèmes et des droits humains. Malgré tout, nous avons évolué vers aujourd'hui plus de conscience à lancer des actions, parce que nous pensons que si la célébration est importante pour susciter la vocation, susciter l'envie, pour accélérer la prise de conscience, on ne peut plus se satisfaire uniquement de ça. Et il faut que nous soyons acteurs aux côtés des autres, en reliance. Il faut que nous soyons acteurs des changements. Et c'est la meilleure façon pour donner envie au grand public de faire la même chose, de rentrer dans le changement au quotidien. Souvent, on me dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, bien évidemment, le geste du colibri porté depuis longtemps par Pierre Rabhi, parfois raillé par certains, peut-être qui veulent plus d'action, on va dire plus radicale, c'est quand même très important de continuer à dire que ces actions du quotidien de tous, elles sont primordiales, parce que si l'Amazonie brûle aujourd'hui, si les écosystèmes sont ravagés, c'est bien pour satisfaire le remplissage des caddies du quotidien avec des produits qui viennent de l'autre bout de la planète et qui ravagent les forêts.
Alors il faut préciser que le festival Climax, c'est aussi et surtout d'abord un lieu, hein, un lieu qui existe à l'année, Darwin, qui a élu domicile dans une caserne militaire en friche, c'est ça, et qui est devenu un lieu de transition, enfin un territoire où la transition écologique et économique se fait, s'imagine, se construit avec de jeunes entrepreneurs et des associations.
Oui, tout à fait. Nous expérimentons depuis 10 ans maintenant un modèle alternatif au modèle ultralibéral. Dérégulé. On essaie de faire sur notre lieu moins pire chaque jour. On ne prône pas le fait que nous soyons des purs, des exemples. Le chemin, il est ardu, il est difficile quand on vit dans notre monde contemporain, issu de cette culture occidentale assez prédatrice, qui s'est fondée quand même, il faut le rappeler, sur la richesse de nos pays. Elle s'est fondée à un moment donné sur une injustice terrible, l'esclavage. C'est l'esclavage qui a fait que l'Occident est devenu extrêmement riche et a imposé son modèle à la planète. Eh bien, nous avons décidé il y a 10 ans d'emprunter un chemin différent et chaque jour nous progressons. Mais il y a beaucoup à faire encore dans notre quotidien ici à l'écosystème Darwin pour l'améliorer. Et ce chemin de progrès permanent, nous essayons de nous y tenir en essayant de garder de l'humilité, mais en faisant des erreurs aussi. Rien n'est parfait et je pense que c'est important quand on parle de conscience d'être lucide sur ce point-là et de ne jamais partir du principe qu'on détient la vérité, mais en tout cas de vouloir suivre un chemin plus vertueux.
Mais vous êtes assez lucide effectivement parce que dans votre dossier à la page un écofestival point d'interrogation, il y a la colonne on est fier et la colonne on peut mieux faire, et dans on peut mieux faire sur le festival, vous notez notamment les mégots restent notre ennemi numéro un, ou alors il y a aussi pour les déplacements peu de stars sans avion, c'est notre point noir. Alors les stars, vous avez toujours réussi à faire venir des grands noms, à avoir vraiment des parrains emblématiques. On pense à Edgar Morin, on pense à Jane Goodall, Cyril Dion, là vous attendez Nicolas Hulot, il y a le chef Raoni. C'est vraiment un festival qui existe seulement, si je peux dire, depuis, enfin là ce sera la 5e saison. Et malgré tout, dès le début, vous avez pu faire venir ceux qui œuvrent ou qui pensent ou qui travaillent, scientifiques, chercheurs, juristes ou autres économistes, à cette transition.
Oui, nous pensons qu'il est important de rassembler des gens qui viennent d'horizons extrêmement différents mais qui partagent une même conviction que nous devons véritablement revenir à des pratiques plus douces, à des comportements plus en phase avec la capacité de notre planète à absorber nos comportements humains qui l'ont tellement dévasté depuis bientôt un siècle et demi, avec une accélération phénoménale depuis 30 ans. Et donc, nous sommes persuadés que nous n'arriverons pas à amplifier ce changement de manière suffisamment efficace si nous commençons à faire perdurer de l'entre-soi. Et c'est pour cette raison-là que quand on a créé le festival, de la même façon d'ailleurs que quand on a créé notre aventure darwinienne dans ce lieu, on a toujours voulu faire de l'hybridation. On a toujours voulu mélanger les genres, les populations. Souvent on nous dit « oui, mais vous êtes c'est un lieu pour les bobos ». Moi, je revendique d'être un bobo, j'en suis un, je vais pas me cacher derrière mon petit doigt. En revanche, ce n'est pas un lieu fait que pour
les bobos qui peuvent me ressembler. Nous accueillons à Darwin et à Climax des gens de tout horizon et surtout qui peuvent avoir des passions différentes, qui peuvent avoir des centres d'intérêt différents, mais qui partagent cette conviction qu'il faut véritablement changer de modèle, changer de paradigme, comme on le dit depuis des années.
Alors, 4 jours de fête avec conférences, concerts, cinéma, art urbain, culture, sport, donc culture et émotion, hein, c'est vraiment aussi cette marque de fabrique hein, dans ce festival. 30 000 festivaliers l'an dernier, vous jouez ce rôle quand même auprès du public. Et puis donc, aussi une programmation musicale quand même. Hein. Alors, on peut peut-être écouter Criollo.
Eu sofri sem perdão. Consegui admitir a situação. Logo o sofrimento se espalhou. Eu fiquei mergulhado em desamor. Eu sofri sem perdão. Não consegui admitir a situação. Me vejo nessa sentença pendenga de desamor. Eu faltei com você e nada chegou. Um belo dia, pensava que tava escrito. Era eu pra ela, ela pra mim, isso tá bonito. Esqueci de fechar uma porta e uma janela de uma outra casa. Toda a verdade veio na minha calçada.
Eu sofri sem perdão. Não consegui admitir a situação. Logo o sofrimento se espalhou.
Criollo qui fait partie de la programmation musicale chez vous. Il y en a d'autres aussi qui vont venir s'exprimer sur scène.
Oui, il y a Delgrès, il y a Rivière Noire, il y a Loudoyon. On en a bien d'autres encore. Ce que je voudrais préciser, c'est que si on souhaite conserver ces moments festifs, ces moments de plaisir, qui sont importants parce qu'on doit aussi se réjouir, même si l'actualité est brûlante, eh bien, on s'aperçoit que d'année en année, et on peut aussi se réjouir de cela, c'est que finalement, ceux qui déplacent plus les foules qu'au début de notre festival, au début, c'était les musiciens, les chanteurs. Et depuis l'année dernière, Jane Goodall a ramené plus de festivaliers que tout autre artiste musicien à la même édition. Et cette année, on sent que quelqu'un comme le Cassie Crowney est en train de véritablement cristalliser une envie de venir le rencontrer, écouter ces paroles de sagesse, ces paroles simples, finalement, de bon sens, qui doivent nous réancrer, nous réenraciner à l'essentiel.
Donc relier, construire, agir, et puis tout ce travail qui est fait en amont, hein, c'est pas toujours évident et le cas pour des festivals, mais chez vous il y a ce festival, donc rendez-vous du 5 au 8 septembre à Bordeaux, Climax, une belle escale en perspective, et en sachant qu'effectivement vous travaillez, vous et vos équipes, en amont, pendant et après, pour une éco-mobilisation pour envisager le monde de demain. Merci Philippe Barre, merci à vous.
Merci, à bientôt.
Bon festival, et on va vous suivre. Et toutes les informations, bien sûr, bibliographies, liens, sont à retrouver comme d'habitude sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute, toujours à votre disposition. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, hashtag DCAEffet, ou sur notre page Facebook. Dimanche prochain, nous serons notamment avec Stéphane Foucard pour entrer dans les mécanismes d'un monde sans insectes et poser la question à qui la faute. Et l'escale verte nous emmènera à Biarritz, côté océan, avec Iker Castège, direct du centre de la mer. Pour l'heure, vous restez bien sûr sur France Culture, c'est la suite de vos programmes, et avec Être et Savoir et Louise Touré.